Donc, je vous propose la méditation, la taille de la parole, mais contrairement à ce que je fais souvent, ici, on ne va pas trop se concentrer sur les quatre sens traditionnels, mais surtout sur le sens allégorique. Bon, on pourra élargir un petit peu de temps en temps, mais ce texte est très très éclairant d'un point de vue, disons, allégorique. Alors, je vous rappelle que l'interprétation allégorique, c'est celle vraiment qui prend le Christ comme point de référence, et que le Christ, d'ailleurs lui-même, dans Luc, le chapitre 24, avec les disciples d'Emmaüs, nous laisse entendre d'ailleurs que ce type d'interprétation, avec lui au sein de l'Écriture, est la façon correcte de lire la parole, parce qu'elle donne une coloration tout à fait étonnante à certains passages. Alors, je vous conseille d'abord d'imprimer ce texte, et puis, je vous conseille aussi de ne pas éteindre l'enregistrement avant que vous entendiez fin de l'enregistrement, parce qu'il y aura quelques temps de silence de temps en temps. Et ce sont des temps, des pauses de prière, si vous préférez. Et moi-même, je prierai avec vous. Alors, je vous propose d'abord de prier, l'Esprit Saint qui a inspiré cette parole et qui peut inspirer notre interprétation. Je te prie, Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, afin que tu daignes écarter tout nuage, toute ténèbre, qui par le fait de nos péchés pourrait obscurcir notre vue. Donne-nous l'intelligence spirituelle et merveilleuse de ta parole, selon le mot du psalmiste, ouvre mes yeux, et je contemplerai les merveilles de ta loi. Alors nous allons lire un extrait de la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 8, alors versets 7 à 15. Alors c'est pas tous les versets, là j'ai pas sous les yeux les versets exacts, en gros c'est 7 à 15, mais si vous imprimez le texte, il y aura les versets qui ont été coupés, ça sera indiqué. Donc en gros, c'est 2e Épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 7 à 15. Frères, puisque vous avez reçu largement tous les dons, la foi, la parole et la connaissance de Dieu, cette ardeur et cet amour que vous tenez de nous, que votre geste de générosité soit large lui aussi. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. En cette occasion, ce que vous avez en trop compensera ce qu'ils ont en moins, pour qu'un jour ce qu'ils auront en trop compense ce que vous aurez en moins. Et cela fera l'égalité, comme dit l'Écriture à propos de la manne. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'a rien eu de plus, et celui qui en avait ramassé peu n'a manqué de rien. Alors bon, avant de commencer l'interprétation allégorique, bon, il est quand même utile d'avoir l'interprétation littérale et historique. Paul fait une collecte pour l'église de Jérusalem qui avait visiblement des difficultés financières, je crois, suite à une famine. Et Paul motive les Corinthiens à donner en leur disant « Vous avez reçu beaucoup de choses spirituelles des Juifs, notamment de l'église de Jérusalem, évidemment la connaissance du vrai Dieu qui est incommensurable. Donc il est temps, vous, d'essayer aussi de les aider autrement, matériellement. Et l'égalité se fera parce qu'il y aura comme un échange de dons. Chacun donc donne à la mesure de ce qu'il a, donc c'est la complémentarité. Chacun donne en fonction de ses dons, si vous voulez. Une idée très présente dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, par exemple. Et bon, la leçon pour nous est aussi que nous avons des dons et que nous devons donner, alors matériellement, spirituellement, et une subtilité quand même de cette interprétation de Paul. C'est que tout de même, nous avons trop tendance dans nos églises à mettre le don matériel, les œuvres matérielles, avant le spirituel. Ça ne doit pas s'opposer d'ailleurs, hein. L'un va avec l'autre. Si nous avons une démarche spirituelle, si nous voulons amener les gens à Dieu, la charité concrète va de pair, hein. Tout est lié dans l'évangélisation. Mais trop souvent, nous pensons que l'aide matérielle suffit, alors que l'aide matérielle n'est qu'un début pour l'aide spirituelle. Paul ne met pas l'un au-dessus de l'autre, mais l'un et l'autre sont complémentaires. Donc, pour que notre charité soit complète, il faut qu'il y ait la dimension matérielle et spirituelle. Donc, parfois, la spirituelle, c'est pas toujours évident de partager explicitement, mais pensons-nous à prier pour les gens que nous aidons matériellement, pour qu'ils rencontrent le Seigneur. Parce que pour Paul, ce qui justifie le don matériel des Corinthiens à Jérusalem, c'est que Jérusalem a contribué à ce qu'ils connaissent le Seigneur. Il n'y a pas plus grand que ça. Est-ce que nous en sommes conscients? Que le but de l'Église, notre but de chrétien, c'est d'amener les gens au Seigneur par notre charité matérielle, par notre prière et éventuellement notre témoignage explicite. Donc, voilà. Alors, bien sûr, ce texte peut aussi se comprendre dans l'incarnation. Hein, lui qui est riche est devenu pauvre à cause de vous pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Donc, il a mis entre parenthèses sa divinité, si j'ose dire. Bon, c'est un peu l'épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Jésus a voilé sa divinité pour son humanité. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'avait plus de divinité, hein, mais cette divinité a été comme voilée en son humanité. Donc, il s'est appauvri, si on peut dire. C'est la kénose, hein, c'est l'anéantissement. Pour que nous-mêmes, nous puissions prendre sa divinité, pour que nous devenions, comme dit Paul, co-héritiers du Christ au ciel. Alors maintenant, je vous propose une interprétation allégorique. Vous verrez qu'elle est magnifique. Enfin, j'espère que je me vante pas. Mais en tout cas, moi, quand l'esprit m'a un petit peu éclairé de cette manière-là, je trouvais ça merveilleux. Elle va nous décrire les relations entre le Père et le Fils. Et après, comme nous sommes appelés à être à l'image du Fils, nos relations au ciel et aussi dans cette terre avec Dieu. Donc, voilà. Frère, puisque vous avez reçu largement tous les dons, excusez-moi. Peut-être avant, il serait bon de faire une prière par rapport à ce qui vient d'être dit sur la charité. Oui, Seigneur, apprends-nous à aimer nos frères pleinement, matériellement et spirituellement, en ne privilégiant ni l'un ni l'autre. Apprends-nous, Seigneur, à toujours nous démener pour aider nos frères par notre temps, notre argent, etc., mais aussi à prier pour eux, et à ce que notre charité matérielle soit toujours orientée vers le désir que cette charité appuie l'action de la grâce du Seigneur, que cette action prolonge notre intercession, donc que le matériel soit main dans la main avec le spirituel pour que nos frères viennent à Dieu, que nos frères parviennent à la connaissance du Christ. Oui, vraiment, Esprit Saint, apprends-nous toujours à ce que ce but soit notre but premier, amener les gens au Christ par notre charité et notre intercession et notre témoignage explicite et ou implicite. Amen. Donc maintenant, je vous propose une interprétation allégorique. Frère, puisque vous avez reçu largement tous les dons, la foi, la parole et la connaissance de Dieu, cette ardeur et cet amour que vous tenez de nous, que votre geste de générosité soit large lui aussi. Alors, imaginons que c'est le Père qui parle au Fils. Évidemment, c'est à nuancer. Ce n'est pas ça qui se passe vraiment, car le Père et le Fils sont d'une égalité parfaite et il n'y a pas de hiérarchie. Mais c'est pour nous éclairer, parce que nous sommes humains, donc nous avons besoin de nous éclairer. Alors le Père dit au Fils, tu as reçu largement de moi, je t'ai donné tout, ma divinité, ma nature, donc c'est la foi, la parole et la connaissance de Dieu. Donc cette ardeur et cet amour que tu tiens de moi, cette nature que tu tiens de moi, cette existence éternelle que tu tiens de moi, eh bien sois large toi aussi, aime-moi en retour. Vous connaissez en effet, dit le texte, la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riche de sa pauvreté. Tu connais ma générosité, dit le Père. Je suis Dieu. Et j'ai voulu tout partager avec toi. Je me suis ouvert à la présence d'un autre, éternellement, de toute éternité, toi. Je suis devenu comme entre guillemets, pauvre, de ma dépendance de relation avec toi, parce que je t'aime à cause de toi, pour que toi-même tu reçoives tout de toute éternité, de moi, que tu reçoives ma richesse, ma divinité. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. Oui, le Père, donc quand il a engendré son Fils de toute éternité, bien sûr, il n'y a pas un point où il n'y avait pas le Fils, hein. C'est-à-dire que le Père, quand la conscience qu'a Dieu de lui-même, comme nous avons aussi nous conscience de nous-mêmes, c'est ce qui fait que nous sommes différenciés d'animaux, nous avons conscience que nous sommes, la conscience que le Père a de lui-même, le Père est tellement amour que ça a donné la communion, le Fils, qui est un être vivant de toute éternité. Eh bien, le Père, il ne s'est pas appauvri. C'est pas comme se fondre dans l'autre. Il s'est pas perdu pour que le Fils existe. C'était la communion, il s'agit d'égalité. Tu vois, je t'ai engendré, non pas pour disparaître, mais pour communier avec toi de toute éternité. La leçon pour nous, c'est que tout amour ne peut pas, vrai n'est pas fusionnel, mais communion. Et qu'au ciel, nous ne nous fondrons pas dans la divinité, comme le disent les hindous et les bouddhistes, mais nous serons face à face avec notre Dieu, comme le dit la première épître aux Corinthiens au chapitre 13 et la première épître de Jean. Nous le verrons face à face. Donc le Père et le Fils sont un par communion. Certes, le Père a tout donné, sa nature, ce qu'il est au Fils. Le Fils lui donne tout en retour, hein. Sa générosité au Fils est large aussi, si j'ose dire. Mais ceci n'est pas fondé sur une espèce de fusion où chacun se perd en l'autre, mais sur la communion, où chacun librement consent à se donner à l'autre. En cette occasion, ce que vous avez en trop compensera ce qu'ils ont en moins. Oui, le Père a débordé de sa divinité en plénitude sur le Fils pour qu'un jour, ce qu'ils auront en trop compense ce que vous aurez en moins. Et cela fera l'égalité. Oui, et un jour, de toute éternité en fait, le Fils, en retour, aime le Père de ce même amour donné en plénitude. Vous voyez, le Père donne, le Fils reçoit pour donner ensuite à son Père un amour de la même intensité, de la même qualité divine. En cette occasion, donc, le Père, ce que vous avez en trop, compensera que le Fils a en moins, entre guillemets, pour qu'un jour ce Fils, donc, ce qu'il a en trop compense ce que le Père a en moins. Évidemment, c'est à nuancer, c'est pas à prendre à la lettre. Cela veut dire, le Père a donné tout ce qu'il avait, et le Fils en retour lui donne tout ce qu'il a. Par communion, cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne. Celui qui avait ramassé beaucoup n'a rien eu en plus, et celui qui en avait ramassé peu n'a manqué de rien. Le Père et le Fils sont pleinement égaux. Il n'y a plus de différence. Si ce n'est que le Père ne sera jamais le Fils jamais le Père, donc il communie comme un homme et une femme dans l'absolu. L'homme n'est pas la femme n'est pas l'homme, je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, mais nous faisons un, parce que nous nous aimons d'un même amour. Eh bien c'est ça. Eh bien vous voyez, le Père veut nous aimer dans le Fils par l'Esprit de la même manière. Vous voyez, il veut tout nous donner, que nous lui donnions tout, et il a fait ça sur la croix. Et dès cette vie, nous sommes appelés à tout donner à notre Dieu parce qu'il nous donne tout. Certes, comme il respecte nos libertés, c'est ça, il nous aime en plénitude, donc il nous aime librement. Nous avons encore tellement d'obstacles dans cette vie qui fait que nous ne pouvons pas recevoir pleinement et malheureusement, nous ne pouvons pas donner pleinement. Mais déjà là, la dynamique doit être là de communion qui trouvera sa plénitude en Jésus-Christ, entouré par l'Esprit, le regard fixé sur le Père. Eh bien, merci mon Dieu d'être comme tu es. Merci Sainte Trinité d'être le lieu de la communion pleine. Il n'y a pas disparition, fusion, écrasement, mais respect de l'autre. Merci vraiment, Père, de nous avoir associés à ton Fils, pour que nous puissions communier dans l'Esprit à cette même qualité d'amour. Tu nous rends participants, ô Seigneur, de ta vie. Et apprends-nous, ô Sainte Trinité, à aimer de la sorte nos frères, non pas en les écrasant, nous imposant, mais dans le respect de la liberté par communion, que nous sachions tout donner, et savoir recevoir d'eux ce qu'ils nous donnent, comme si cela était parfois c'est peu, parfois c'est beaucoup, mais apprends-nous à donner tout et à savoir recevoir tout ce qu'ils nous donnent. Apprends-nous à aimer, ô Sainte Trinité. Et mon Dieu, apprends-nous à savoir nous aimer, à savoir avoir un regard lucide mais bienveillant à la fois sur nous-mêmes, sachant que tu travailles en nous, que tu nous aimes et que tu nous purifies, et que nos péchés ne sont que, mais aussi tenaces puissent-ils être, ne sont que passagers. Ils prendront fin grâce à toi, aidés par nos efforts qui sont eux-mêmes nourris par ta force, dès cette vie ou pas, ou dans l'autre. Mais nous ne sommes pas appelés à rester tributaires de nos péchés. Alors donne-nous ce regard de confiance, de bienveillance et de lucidité sur nous-mêmes. Voilà, apprends-nous à donner ce regard et à savoir recevoir nos faiblesses. Savoir les accueillir, c'est de la lucidité pour te les confier. Amen. Je vous propose donc de relire ce texte encore une fois, mais cette fois-ci d'une traite. Et un petit temps de méditation, après nous prierons l'Esprit pour que vraiment il nous aide à l'assimiler. Frères, puisque vous avez reçu largement tous les dons, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, cette ardeur et cet amour que vous tenez de nous, que votre geste de générosité soit large lui aussi. Vous connaissez en effet la générosité de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. En cette occasion, ce que vous avez en trop compensera ce qu'ils ont en moins, pour qu'un jour ce qu'ils auront en trop compense ce que vous aurez en moins, et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'a rien eu de plus, et celui qui en avait ramassé peu n'a manqué de rien. Avant donc une prière à l'Esprit, au Seigneur, qui nous aide à digérer pleinement cette parole, ferait remarquer le dernier verset, voyez la liberté d'interprétation de Paul et des auteurs du Nouveau Testament. Ils prennent l'Ancien Testament, et le sens littéral du texte n'était pas forcément ça. Enfin, il était que, c'est vrai que Dieu pourvoyait chacun égalité, mais voyez comme il a spiritualisé la chose, voyez comment il utilise la parole de Dieu, non pas pour la tordre, mais pour appuyer sa vie quotidienne, donner à l'Église de Jérusalem, à l'image de la manne, eh bien nous devons apprendre à lire cette parole de la même manière, c'est-à-dire à partir du sens littéral, donc à partir de ce sens, hein, pour ensuite élargir le sens, l'interprétation plus spirituelle qui va rejoindre notre vie quotidienne. C'est tout le sens de l'interprétation de la Bible, et je vous invite vraiment à aller sur le site internet, à l'espace biblique, ensuite le lien « Lire la Bible », le tout premier lien, qui est « Interprétation de la Bible », je crois selon les sens ou les quatre sens traditionnels ou spirituels. Voilà. Eh bien, Seigneur, donne-nous une intelligence plus claire de tes autres prophéties, ouvre davantage nos sens à la vérité, et fais-nous comprendre ce que tu as inspiré en toi, Christ Jésus, notre Seigneur, à qui appartient la gloire et la puissance. Amen. De l'enregistrement.
Free audio post-production by Alphonic.com.